Gérard Despès de France Alzheimer, rejoignez-moi, qu'on discute un petit peu. Venez vous mettre où vous voulez d'ailleurs. On va parler un petit peu tous les deux avec vous. Vous êtes le président de France Alzheimer, justement, pour l'Hérault. On a beaucoup parlé de France Alzheimer. Ça a été cité à plusieurs reprises. Présentez-nous un peu cette association, déjà.
Oui. Ben alors, France Alzheimer, bon, au niveau national, donc c'est l'Union nationale France Alzheimer. Ça regroupe 101 associations. On est présent dans tous les départements de France, y compris l'outre-mer, La Réunion, Lyon... Martinique, Guadeloupe, la Guyane, etc. C'est l'existence de cette union, elle date de 1985. Vous voyez, donc il y a déjà 39 ans qu'on existe, d'où l'expérience qu'on a pris, qu'on a pu rencontrer, et l'évolution de notre association. Au début, c'était une association de famille. C'est-à-dire que, comme souvent dans les maladies un peu où il n'y a pas de réponse, les familles se regroupent pour essayer, disons, d'avoir des aides et l'ensemble. Donc ça a démarré comme ça. Après, on s'est vite aperçu que dans la famille, il y avait le malade et puis il y avait les dents. Donc il fallait répondre aux besoins du malade. Donc on a évolué pour justement voir par rapport aux besoins du malade. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment et surtout à l'époque, et donc, il n'y avait aucun traitement curatif. Bon, il y avait quelques molécules dont le docteur Chanton a fait et les a un petit peu citées, mais elles sont déremboursées, le bénéfice-risque n'étant pas jugé suffisant, etc. Alors que ça marchait sur certains. Bon, chacun est individuel dans sa réaction, dans son immunologie, Donc, on s'est attaché aux malades. Ensuite, après. On s'est aperçu avec l'expérience que le danger principal, c'était l'isolement et le repli sur soi. Donc il fallait travailler sur le maintien, disons, du lien social et de l'activité au sein de la famille, déjà du couple, mais vis-à-vis de l'extérieur aussi. Donc je verrai plus loin, on a des actions justement qui rentrent dans ce champ-là. Et le dernier point, c'était les dents, dont on vient de parler. Alors les dents... Ça n'a jamais été autant d'actualité. On en parle partout, hein, des aidants. Bon, les aidants, ils n'ont pas de statut. Quand nous, on dit on n'est pas aidant, on devient aidant, ça nous tombe dessus. Et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Hein. Donc déjà, il faut être présent au début, quand il y a donc ce diagnostic qui est posé. Et après, disons, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc ça a été évoqué par Alexandra, avec d'autres également qui interviennent chez nous, Gaël, disant des neuropsies, c'est de passer cette étape, d'accepter la maladie, donc lutter contre le déni. Aussi bien le déni du malade, souvent lui il ne souffre pas, donc dans les phases de début il n'a pas tellement, disons, d'opportunité d'aller nous rejoindre ou de se faire aider. Il dit, oh, ça va très bien. Hein. Donc, c'est quand il commence à avoir des pertes d'autonomie que là, il commence à peut-être se poser des questions. Mais on a tourné beaucoup de films sur ça. Tous témoignent, les malades, qui disent, il y a quelque chose qui se passe. Donc, mais ils ne savent pas trop, mais ils le ressentent. Ils sentent qu'il y a des choses, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Donc, en définitive, soit ça retarde d'aller faire un diagnostic à travers ça, et en même temps, la famille non plus, ça ne folle pas trop. Bon, il dit, bon, ben ok, hein. Dans le temps, papy perdait la boule, il perdait la boule, hein. On ne s'en inquiétait pas plus que ça, hein, et ça marchait. Bon. Donc, également, et souvent, on a, nous, les enfants qui sont à l'extérieur de la cellule initiale, qui viennent pour Noël, pour l'ensemble, et qui nous appellent en disant « on a remarqué quelque chose qui se passe donc, dans la famille ». Oui. Donc ça peut venir de l'intérieur ou des voisins ou de l'extérieur. Donc on parle tout à l'heure du diagnostic, c'est important effectivement d'aller à ce diagnostic. Donc une de nos activités avec nos équipes, c'est justement favoriser, disons, d'avoir... Alors le premier diagnostic... Les gens ont tendance à aller à leur médecin généraliste. Bon, alors dans les médecins généralistes, je dirais entre guillemets les vieux médecins, hein, ceux qui sont prêts à la retraite. Dans leur formation initiale, ils n'avaient pas beaucoup d'heures sur les maladies neurodégénératives. les jeunes médecins qui maintenant ont déjà plus, disons, et ils font également plus de stages ou de dans leur cursus pour aller là-dedans. Donc ça va mieux. Mais on se rend compte que là où on perd du temps, c'est que les médecins n'osent pas prononcer le mot Heisenberg. Et ils disent, on fait un petit test, ouais, vous avez des troubles cognitifs, ok. Bon, allez, on se revoit dans 6 mois. Dans 6 mois, ils refont l'évaluation, MMS ou autre chose, disons, et on a perdu, disons, rapidement, 1 an, 2 ans, 3 ans, avant d'arriver au vrai diagnostic, hein, qui est auprès d'un centre, disons, et là, on a identifié. À partir du moment où on a identifié, on peut faire quelque chose. À partir du moment où on met un nom sur les choses, on peut essayer de faire quelque chose. Donc voilà, cette première phase, disons, qui est là. Donc après, nous avons un rôle d'informer, justement, la famille sur la connaissance de la maladie, ce qui a été évoqué. On a une formation des aidants qui leur explique la maladie, puisque le médecin, dans sa consultation, hein, c'est 15-20 minutes, hein, il n'a pas le temps de développer, disons, tout ce qui va se passer. Et puis la peur de faire peur. Et dire, la réponse qu'on a souvent, c'est de dire, est-ce qu'ils accepteront...
Oui, l'acceptation.
Est-ce qu'ils acceptent de ce que je vais leur dire hein? Donc c'est un petit peu, moi je l'ai vécu, j'avais un cabinet dans la santé pendant 35 ans, ça me rappelait, disons, il y a 30 ans, quand on a réglé le problème de la consultation d'annonce des cancers. Hein? Donc on prenait tout un tas de précautions, etc. et tout. Et on est arrivé maintenant à avoir quelque chose tout à fait transparent et ça marche. Là, on n'y est pas. Hein? Donc on n'y est pas encore. Alors après, les centres, disons, pour aller plus loin dans l'exploration, on parle du liquide rachidien. Bon, alors, les hommes, ils ne sont pas chauds. Hein? Donc ils ont la trouille. Bon, les femmes, elles sont plus habituées au niveau de se faire suivre médicalement. Et en plus, maintenant, il y a les péridurales. Hein? Bon. Donc les jeunes ou les autres ont moins peur de dire on y va, puisque ça se fait, c'est un geste technique qui fait qu'on peut y aller. Donc on constate qu'il y a une amélioration dans cette prise de connaissance, que c'est essentiel, qui est la maladie, qu'on accepte la maladie. À partir du moment où on l'a acceptée, on peut mettre des choses en place. Et nous, le premier truc, c'est oser, ne restez pas seul. Alors j'ai entendu donc sur des éléments... par exemple, accepter de passer la main à d'autres professionnels qui viennent, c'est une étape importante. Il y en a qui ont évoqué pour l'EHPAD. Est-ce que dans l'EHPAD, ils vont s'en occuper aussi bien que moi? Nous, on a des malades qui sont en EHPAD où l'aidant continue à venir à midi le faire manger tous les jours parce qu'ils ne font pas confiance, ils n'ont pas passé la main à d'autres professionnels. Et ça peut être le cas avant ou autre, hein, donc tout ça.
Alors
donc,
voilà, justement, ça, c'est la première phase. Quelles sont les actions que vous faites vis-à-vis des malades?
Tout à fait.
Du fait, on sait l'absence de traitement, du coup, ce sont des interventions non médicamenteuses. Qu'est-ce que ça va être?
Alors, donc, première étape, effectivement, le malade. On s'occupe, nous, du malade. Objectif, ralentir l'évolution de maladie. Ça veut dire stimuler pour mobiliser tout ce qui est préservé dans le cognitif. Donc, il y a des aspects qui sont préservés. Et on a tout un tas d'activités qu'on appelle des interventions non médicamenteuses. Alors, ces interventions non médicamenteuses, il n'y avait pas d'études scientifiques, disons, réelles. Maintenant, disons, il y a une société savante et il y a des études qui prouvent que les interventions non médicamenteuses, ce que nous avons constaté avant, mais qui n'était pas scientifiquement prouvé, ça fait du bien. Alors, je ne vais pas faire un catalogue à la Prévert, hein, mais en définitive, les principales, disons, c'est tout ce qui est la mobilisation cognitive, avec donc des stimulations sur des jeux, sur des approches, sur tout un tas de sens. La deuxième approche, c'est de garder, disons, une activité. Donc tout ce qui est l'activité, les liens sociaux, l'ensemble, c'est de la stimulation cognitive.
On n'a pas besoin de faire,
d'atelier, voilà, de tout ça. Bon, par exemple, l'activité physique adaptée, on sait que c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le cerveau. Et donc tout un tas d'autres activités. On a lancé l'équithérapie, donc la médiation animale à travers le cheval. Donc des personnes qui étaient au stade d'évolution 3-4, quand ils avaient perdu pratiquement... On s'aperçoit, ici on est dans une culture, disons, de cheval, hein, donc on s'aperçoit qu'ils sont capables de panser le cheval, de lui mettre le licol, d'aller le promener, alors qu'ils ont perdu le spatial souvent, et de le ramener. Donc dans ce temps-là, on a une stimulation qui est donc très intéressante. On a le tennis de table qu'on vient de lancer, on a une convention avec le club de Montpellier, les deux petits jeunes là, qui ont été donc, des champions.
Lebrun.
Et c'est très intéressant puisque... Les tennis de table, ça joue sur la concentration que la personne a perdu, hein, donc souvent à travers la balle, sur les mouvements et sur l'ensemble. Donc voilà un peu quelques exemples.
Vous proposez alors, on parlait tout à l'heure une quinzaine d'activités, je crois, par mois sur le département.
Alors, oui. Alors pour les malades, nous avons donc en moyenne, disons, 20 à 25 ateliers ou activités par mois sur le département. Parce que l'enjeu, on a vu tout à l'heure l'exposé de l'Écoutille à Frontignan. Bon, sur le bassin de Thaux, il y a 3000 familles potentiellement qui sont touchées. Quand on n'en prend que 10, hein, vous voyez un petit peu le boulot qui reste à faire. Bon, donc des écoutilles, il en faudrait, disons, une centaine sur le département si on veut que ça marche. Bon, par contre, il y a quand même des accueils de jour qui existent, hein, où là aussi, hein, on peut amener les personnes.
Alors, c'est pas une. On va juste se rectifier, c'est pas. Bien spécifique. Après,
non,
c'est plus
en
large.
File active,
mais
en...
n'empêche qu'il.
D'accord, mettons 48, 50, 100, allez, mettons 100, soyons larges. Il y a donc 100 par rapport à 3000, vous voyez ce que ça donne. Donc on a encore du boulot, et on travaille avec les écoutilles depuis déjà pas mal de temps, et tout ce que vous faites, c'est sensationnel. Mais on voudrait bien que ça se multiplie, hein, qu'il y en ait à 7, à Metz, etc., à Agde. Or, ce n'est pas le cas. Bon, donc c'est important. Alors, il y a eu tout à l'heure dans les questions sur l'aromathérapie.
Oui, vous en faites.
Nous,
vous
on a lancé l'aromathérapie. Alors l'aromathérapie, effectivement, stimule, disons, encore, raccroche à ce qu'il en a vécu, ce qu'il en est, et préserve un petit peu des observations. Ça ne va pas, disons, solutionner, mais ça va retarder un petit peu en stimulant toutes ces activités. On a la musicothérapie aussi, des ateliers. Donc tout cela, vous pouvez le retrouver sur notre site, hein, tous nos ateliers, et où ça se situe sur l'ensemble du département.
Gérard, un mot sur les aidants, parce que le temps avance. Un mot pour conclure sur les aidants, dans la prise en charge du projet de vie et comment vous les accompagnez.
Alors, sur les aidants, en définitive, il y a effectivement ce qu'on a vu, l'épuisement. Et alors nous, ce qui a été solutionné, vu ce qui a été précisé, c'est qu'en réalité, c'est pas du burn-out, c'est l'épuisement émotionnel qui enclenche tout le reste. Donc d'être accompagné, soutenir, avec nos neuropsychologues, on a une quinzaine de professionnels de santé qui interviennent pour être présents dans les moments difficiles. Quels sont les moments difficiles? Les dents. Diagnostic. Là, bon, ça tombe. Deuxième chose, perte de reconnaissance du spatial, où on est obligé de fermer, de tout protéger. La personne nous dit, mais moi j'ai l'impression de le mettre en prison. Bon, prise de la voiture, interdiction. Là aussi, il y a une culpabilité de l'aidant, de dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je continue. Bon, ensuite, après, le plus important à dire, à dépasser, c'est la perte de reconnaissance de l'autre, où finalement la personne devient un étranger, entre guillemets, ce qui n'est pas vrai, puisque par les émotions et par d'autres aspects, on peut rester l'aidant en contact. Donc, sensibiliser l'aidant à tout ce qui peut être les bonnes attitudes et les bons comportements. Et on parlait tout à l'heure de réaction, d'agressivité. Souvent, c'est lié parce que l'aidant n'a pas eu le bon comportement par rapport à la situation. Et la personne ne comprend pas. Une de ses défenses, ça peut être l'agressivité. Ce n'est pas généralisé.
Donc, hein, vous allez pas aider non plus, à accompagner l'aidant.
L'aidant. Et ensuite, après, maintenir la relation, disons, aidant-aider. Faire des choses ensemble. On a des ateliers où on continue à faire des choses ensemble. Par le passé, on faisait, je prends un exemple, la danse-thérapie, les choses comme ça. Ils continuent. Les sorties, ça a été évoqué. Nous, on fait beaucoup de sorties conviviales. On a toujours 100 à 120 personnes qui sont autour d'un lieu avec restauration et actuellement des activités également physiques. Et le plus, c'est que les familles, entre elles, s'aident. C'est-à-dire qu'ils connaissent d'autres familles, sont capables d'appeler. Il y a des relations qui se naissent, en dehors des professionnels qui peuvent intervenir. Ils ont déjà des exemples. L'autre point positif qui nous différencie un petit peu des autres, c'est que nos bénévoles, on a environ 70 bénévoles actifs qui sont soit des anciens soignants, soit des anciens aidants. Donc les aidants, quand ils discutent avec un autre pour aider, ils savent de quoi on parle. Ils l'ont vécu. Ils n'ont pas quelqu'un qui est purement un professionnel. Ils ont plus confiance des fois en des témoignages et en se raccrochant à des aidants qu'à d'autres. Donc pour nous, c'est une grande famille où on a besoin de tous les professionnels de santé qui existent, de tous ceux qui interviennent. On a un maillage important, par exemple, avec tous ceux qui interviennent à domicile, puisque ce sont eux qui peuvent repérer qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc on sensibilise les équipes, on sensibilise. Donc plus il y a de maillage entre tous ceux qui interviennent, disons, mieux c'est pour la famille et pour le malade. Et on s'aperçoit quand même que nous, on a des malades qui ont encore, qu'on a accompagnés, qui sont dans la 20e année ou 21e année, ils sont toujours à domicile. Ils ne sont pas encore passés en EHPAD. Donc on est en moyenne 12-15 ans de capacité à vivre avec la maladie, mais vivre autrement. Il faut se faire un projet de vie et un projet d'accompagnement qui est différent de ce qu'on a pu faire avant. Donc là, on peut les accompagner par nos équipes hein, qui vont les aider à dire « ça, je ne peux plus le faire ». Mais par contre, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose à la place qui continue à ce que vous soyez dans la dynamique ? Et le lien social est comme on le dit, quand une famille marche bien, c'est bien pour les dents. Si tout le monde doute ensemble, cache des choses et tout, il perçoit, il sent hein, c'est donc les choses. Donc voilà, en gros, disons, nous, ce qu'on a comme activité, et sur l'Hérault, donc c'est depuis 1989, ça fait 35 ans qu'on est là, et qu'on existe, et actuellement, on est à peu près sur 1000 familles que l'on accompagne, mais lorsqu'on sait que la projection 2035, ça sera environ 40 000 familles touchées, vous voyez encore, il nous faut 15 ou 20 Français Alzheimer hein, pour arriver à répondre. Mais on a vu Ciel Bleu, on a vu les hommes, il y a quand même des plateformes qui existent. On a la chance d'avoir des cliniques qui sont spécialisées à Alzheimer, qui font un peu plus. Donc je crois qu'on avance. La recherche avance puisqu'on travaille beaucoup avec le CHU et notamment l'équipe du professeur Gabel, enfin Touchon dans le temps, donc on continue à le faire. Et donc on a quand même des liens importants pour arriver à des diagnostics. Hein.
On va voir s'il y a des questions que vous souhaitez poser à Gérard Despèce. Levez la main s'il y a des questions. Pas de questions, vous avez été très complet Gérard, c'est parfait, fabuleux.
Merci.
On va l'applaudir.
Donc, pour les informations, puisque là vous pourrez les trouver, j'ai continué, donc il y a les sites, mais on a 26 permanences sur le département, dans toutes les villes, y compris les Hauts-Cantons, Ganges et tout, on n'est pas que sur le littoral, où on a des bénévoles de chez nous qui sont capables de vous informer.
Merci beaucoup.